OK, troisième heure. On va parler de... De quoi on va parler dans cette troisième heure? Ah oui, de cette publicité de Maxi qui a été retirée. Elle mettait en vedette Martin Matt. J'ai eu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, la chance de la voir avant que Maxi a cédé, avant que Maxi cède aux pressions. Parce que là, il y a eu des critiques à l'effet que il faisait de la grossophobie. Il se moquait des personnes grosses. Puis je l'ai vu la pub, honnêtement, c'était drôle, là. Puis effectivement, il était comme en gros, il était tout rembourré, là, parce qu'il avait bouffé. C'était drôle, c'était du Martin Matt. Sauf que ils ont retiré la pub. Puis d'ailleurs, je vais vous demander votre avis là-dessus, on va en discuter. On va parler avec deux entrepreneurs qui sont couple, un couple dans la vie, qui sont parents et qui ont très, très peur de ne pas avoir de 40 jours cet été. Puis on va parler aussi, on va parler un petit peu de camping, on va parler des restaurateurs aussi qui doivent payer une fortune pour avoir recours au service de Uber Eats. Mais d'abord, Luc Lavoie, le tour du monde.
Bonjour, M. Drainville.
Bonjour, M. Lavoie.
Bon, on commence au Québec. 74 décès supplémentaires au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le total à 4302. Et on en est à 49 702 cas, 543 de plus en 24 heures. Au Canada, on en est à 88 975 cas, 6 875 décès. Et aujourd'hui, le premier ministre Trudeau a ouvert une importante conférence des Nations unies visant à élaborer une réponse mondiale coordonnée à la pandémie. Et je le cite, « Pour que l'économie mondiale se rétablisse et que nos économies nationales rebondissent, nous avons besoin d'un plan mondial et coordonné. Nos citoyens doivent avoir confiance dans les institutions internationales qui ne laissent personne de côté et qui sont capables de surmonter les défis mondiaux.
Bon. »
Je vous rappelle que le Canada fait campagne pour l'obtention d'un des deux sièges non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU.
J'allais te poser la question.
Le Canada est en compétition avec la Norvège et l'Irlande. Le vote est prévu dans les prochaines semaines. Mm-hmm. Et d'après moi, les chances du Canada de l'emporter sont pas mal proches de zéro.
Ah, ça, je suis pas sûr de ça, mon ami.
Parlez-en à la Chine, voir. Elle dispose d'un droit de veto. Attention.
Non, pas pour l'élection.
Pas pour l'élection, probablement, tu as raison.
Non.
Mais la Chine, si la Chine décide de tordre des bras au pays d'Afrique...
Ça, tu as raison. Ça, c'est un problème. Okay.
Mais... C'est vrai que je pense pas qu'il y a de veto. Tu as raison de le souligner. Ils ont un veto au Conseil de sécurité, pas dans l'élection des membres.
Non, l'élection, c'est un vote par pays.
Oui.
Puis moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est serré. Maintenant... Je peux pas appeler la Norvège puis l'Irlande pour leur demander. Là, probablement qu'ils me diraient que c'est serré ou peut-être qu'ils me diraient, comme tu penses, le Canada, franchement, a pas de chance. Mais moi, m'a dit François-Philippe Champagne lui-même, là, m'a dit, on a des chances. Puis à l'ONU, à la délégation canadienne, ils me disent que c'est serré. Ils pensent que c'est jouable. En tout cas, garde-le qu'on va.
Je leur souhaite, mais je peux te souligner une autre chose. Je pense que ça dérange pas un seul citoyen canadien. Ça, c'est vraiment.
Ah, mais Trudeau y tient parce qu'il voit une occasion de visibilité. Puis c'est pendant 2 ans, tu peux jouer un rôle. Puis pendant une période de, je pense, c'est 2 mois, tu présides le Conseil de sécurité. Ouais. Tu peux amener tes propres enjeux. Mais tout ça pour te dire, Luc, la fameuse conférence dont tu nous parles, je me suis posé la question. Est-ce que c'est Trudeau qui a organisé ça lui permettre, dans le fond, de bien paraître aux yeux de certains pays qui vont voter, là.
Il était un des deux organisateurs, l'autre étant le secrétaire général des Nations unies, M. Gutiérrez, et l'autre, le co-host, on appelle ça en anglais co-host, alors je sais pas, Bernard, c'était une belle traduction.
Oui.
C'est le Canada, c'est une organisation, c'est le Canada qui a pris l'initiative, et c'est clairement en fonction de cette course pour obtenir un siège au Conseil de sécurité.
D'accord, en tout cas, on va voir, on va surveiller ça.
À l'échelle du monde maintenant, 5 833 795 cas, 358 438 morts. Et l'ONU estime que la pandémie pourrait faire reculer l'économie mondiale de 8 500 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années, plaçant 34,3 millions de personnes dans l'extrême pauvreté dès cette année. Et bon, c'est une petite note un peu différente, le petit Robert... Les dictionnaires, le petit Robert a annoncé qu'il avait ajouté quelques mots à son dictionnaire. On y verra désormais des mots comme déconfinement, COVID, télétravail et télétravailler, téléconsulter et téléconsultation. Voilà.
OK. Ben
ça laisse des traces, les pandémies.
Ben oui, absolument.
Parlons des États-Unis. Je pense que je pourrais commencer en dehors de la pandémie, puis parler du cas de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans qui a été littéralement assassiné par un policier. Je veux dire, les images sont à couper le souffle.
Résume, raconte, Luc, parce que c'est pas tout le monde qui suit ça comme nous autres. Là, on est là-dedans à journée longue. Là.
Alors, un Afro-Américain est en train de déambuler. La police a voulu l'arrêter. Il n'a pas résisté, même si la police t'a dit le contraire. Hein? Et là, ils l'ont couché au sol, puis un policier qui s'est mis le genou directement sur sa gorge pendant 12 minutes. Le gars est mort. Et là, pour se justifier, parce qu'il existait des images où tu voyais le genou du policier sur le cou.
Mais je pense que, Luc, on a un extrait de l'arrestation en question, justement, un extrait sonore. Oui. Alors, le bruit que vous allez entendre, là, c'est l'homme, donc, qui est en train d'étouffer littéralement. Là. Il y a le genou du policier sur la gorge. C'est épouvantable, Luc.
Alors, il y avait des gens, évidemment, qui avaient des caméras, des téléphones caméras,
ouais.
et qui ont filmé la scène. Et il y a une foule qui commence à se masser autour. Puis là, tu te rends compte que plusieurs dans la foule sont en train d'avancer pour se demander s'ils vont pas enlever le policier de là. Et là, la police dit, mais c'est parce qu'il a résisté à son arrestation. Oups! Est apparue une nouvelle vidéo tournée d'un autre angle. Tu vois qu'il n'y a aucune espèce de résistance. Il se laisse arrêter. Et là, on l'a... Alors, c'était un
meurtre. Donc, il est mort asphyxié, là. Hein?
Il est mort asphyxié. Il a été placé dans un véhicule de police. Il est arrivé à l'hôpital. Ils ont constaté la mort. Et il s'appelle George Floyd. Et ça a donné lieu à des manifestations de plus en plus violentes dans les rues de Minneapolis, parce que c'est là que ça s'est passé. Et c'est en train de devenir énorme comme affaire. Le FBI a été chargé de mener une enquête. Revenons à la pandémie. Le nombre de décès aux États-Unis sur 24 heures est reparti à la hausse. Mm. 1401 décès supplémentaires après 3 jours d'affilée à moins de 700 morts. Et comme je vous en ai fait part hier, la barre des 100 000 morts a été franchie. On en est déjà à 101 894 et 1 733 743 cas confirmés. La mortalité a surtout frappé l'État de New York. On le sait, le deuxième le plus peuplé du pays avec un tiers des décès au pays. Mmh, mmh. Selon une moyenne de plusieurs modèles épidémiologiques réalisés par des chercheurs de l'Université du Massachusetts, le nombre de décès devrait avoisiner les 123 000 morts dans le pays d'ici le 20 juin. Ce matin, le président Trump, ça lui a pris du temps, mais il a présenté ses condoléances aux proches des 100 000 morts du coronavirus et je le cite, « Nous venons juste d'atteindre un seuil très triste avec le nombre de morts de la pandémie. À toutes les familles et amis de ceux qui sont partis, je veux présenter mes sincères condoléances et mon amour pour tout ce que ces personnes admirables défendaient et représentaient. Bon. Que Dieu soit avec vous. » Disons que je suis à peu près sûr que c'est pas lui qui l'a rédigé, mais au moins il l'a fait.
Oui, OK.
Mais le vrai Donald Trump est jamais ben loin, comme tu sais, hein. Cet après-midi, il devrait signer un décret là, qu'on appelle aux États-Unis un « executive order » visant à limiter la protection des réseaux sociaux et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leur contenu. Je vous rappelle que mardi, Twitter a signalé pour la première fois des messages du président en ajoutant la mention « Vérifiez les faits ». Un porte-parole de Twitter a justifié le geste en disant « Ces tweets contiennent des informations potentiellement trompeuses sur le processus de vote ».
Alors, il passe à l'action. Ce décret présidentiel va faire en sorte que quoi, là?
Essentiellement, il existe une loi aux États-Unis depuis 1996.
Ouais.
Et cette loi-là dit que les réseaux sociaux, là, on parle, mettons, de Facebook et les autres, là, ne peuvent pas être poursuivis en justice pour des contenus véhiculés par des tiers sur ses propriétés. Et ça, la minute que tu en... Et ça, paraît-il, c'est ce que Trump veut changer. La minute que t'enlèves ça, je veux dire, Facebook, Twitter, ça change complètement la nature de la bébite. Tu sais, ils peuvent être poursuivis par n'importe qui dans n'importe quelle juridiction aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Alors, c'est à ça qu'il veut s'en prendre. Corée du Sud. Ah non, mais je voulais... C'est tout récent. Le gouvernement américain, il y a à peu près une demi-heure, a déposé des accusations contre 28 citoyens de la Corée du Nord et 5 citoyens de la Chine pour avoir été complice de paiements illégaux de 2,5 milliards de dollars pour l'achat de composantes pour ses missiles et armes nucléaires. Et ce stratagème, j'en ai pas vu davantage, ça vient tout juste de sortir, mettrait en cause Huawei. Qu'est-ce que ça a à voir avec la pandémie? Ça a surtout à voir avec la nouvelle géopolitique des superpuissances, là. C'est de plus en plus en plus de pression mise sur la Chine. On va voir à quoi ça va nous mener. Corée du Sud,
oui.
Aujourd'hui, une nouvelle venue, une nouvelle... Éclosion en Corée du Sud a ravivé les inquiétudes concernant la possibilité d'une fameuse deuxième vague de contamination. Les autorités ont rapporté la détection de 79 nouveaux cas en une journée, dont 69 dans l'entrepôt d'une société de commerce en ligne dans la banlieue de Séoul. Mm. Les autorités coréennes, dont la réponse à la pandémie a été jusqu'ici érigée en modèle d'efficacité, les autorités ont immédiatement rétabli pour 2 semaines des restrictions qu'elles avaient récemment levées, comme la fermeture des musées, des parcs et des galeries d'art. J'achève, Bernard, j'arrive en Amérique latine.
Oh, ça va bien, Luc, ça va très bien. Mais sur la Corée du Sud,
ouais.
M'a dire, quand j'ai vu ça, puis je ne dois pas être le seul, on s'est dit, oh, boy, on veut pas...
Ben, c'est parce que c'est la théorie de la deuxième vague. On en entend parler de façon... théorique,
hein?
Mais là, on dirait que c'est en train d'arriver, parce que la Corée du Sud avait essentiellement éliminé le coronavirus de son territoire. Enfin, c'est la perception qu'on en avait, et tout le monde admirait l'efficacité avec laquelle ils avaient réagi.
Oui, c'est ça. Ils étaient
mais
comme
là,
le...
Mais là, ça revient. Ouais. Alors, cette idée de deuxième vague, là, et c'est une chance qu'on a, si on peut appeler ça une chance, ça a commencé en Asie au mois de décembre-janvier. Alors, on sait... comment ça va se passer ici? On va voir si cette deuxième vague frappe d'autres pays d'Asie puis ensuite d'Europe. Mm-hmm, parce qu'après ça, ce sera notre tour.
Oui, non, tu as raison. Continue, mon gars.
On va en Amérique latine. C'était qu'une question de temps. L'épidémie touche désormais les fameux bidonvilles d'Amérique latine où des millions d'habitants sont dans l'impossibilité de respecter les mesures préventives. Et la directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé, Carissa Etienne, a dit « Nous sommes de plus en plus préoccupés par les pauvres et les autres groupes vulnérables, plus exposés à la maladie et à la mort. » Avec une courbe d'infection qui grimpe en flèche dans des pays comme le Brésil, le Pérou et le Chili, et une évidente sous-estimation des cas, la situation est de plus en plus explosive. Et je vais terminer avec la Russie. Mm-hmm. Quand on parle de sous-estimation des cas, je pense que... la Russie a passé la barre des 4000 morts, dont 174 dans les dernières 24 heures. Je pense qu'on peut faire une multiplication par 10 dans ce cas-ci, puis on ne sera pas très loin de la vérité. Ouais. On dénombre à l'heure actuelle 379 051 cas de contamination, dont la moitié se retrouve dans la région de Moscou. Et une petite dernière, à Bali, en Indonésie, une maman girafe a donné naissance à un bébé. Le bébé se porte bien et ils l'ont baptisé Corona.
Ah, oh, t'as le cœur tendre.
N'est-ce pas?
derrière tes
c'est
apparences.
C'est toi qui m'humanises, tu m'humanises.
L'homme bourru que tu présentes, ce n'est pas le vrai Luc Lavoie. C'est une vraie pâte molle à l'intérieur.